Seigneur, que ce soir soit un autre soir de véritable adoration, que le Saint-Esprit puisse descendre dans nos cœurs, comme il l'a fait tout au long de la semaine et des jours que nous avons passés ici, dans ce charmant Angelus Temple. Et nous te prions, Père Céleste, de bénir ce lieu, puisse-t-il se dresser comme un mémorial jusqu'à ce que Jésus revienne. La contribution de la part d'une femme qui a cru en toi et qui t'a servi. Nous te remercions pour toutes ces choses. Puisse ce glorieux ministère qu'elle a commencé ne pas avoir de fin jusqu'à la venue du Seigneur. Reçois la gloire ce soir, Seigneur, en guérissant les malades et ceux qui sont ici, qui ne te connaissent peut-être pas quant au pardon de leurs péchés. Puisse ce soir être le soir où ils t'accepteront. Accorde-le, Seigneur, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vois qu'on a commencé à déposer des mouchoirs ici. Chaque soir, je m'efforce de prier sur ces mouchoirs. Et donc, si vous n'avez pas de mouchoir ici et que vous aimeriez que je vous en envoie un, ce ne sera pas un mouchoir, mais juste un petit bout de ruban sur lequel j'aurai prié. Alors, il vous suffit de m'écrire chez moi à la boîte postale 325 à Jeffersonville, Indiana. Toute personne, et chaque semaine, j'en envoie des milliers. Ils sont envoyés partout dans le monde. Eh bien, je ne vous donne pas cette adresse dans le but de vous harceler par la suite ou de... Tout ça, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer pour cela. C'est tout simplement pour vous aider. Nous n'avons pas d'émission de radio. Nous n'avons rien. Nous ne faisons pas de sollicitations. Nous n'avons rien à vendre. La seule chose que nous voulons faire, c'est essayer de vous aider. Alors, si vous voulez obtenir l'un des mouchoirs, les petits tissus sur lesquels nous avons prié. Et bon, beaucoup de gens oignent ces tissus, et c'est en ordre. Tout ce que Dieu bénit, je suis certainement en faveur de cela. Mais si vous remarquez, dans les Écritures, Paul ne les a jamais oints. On prenait simplement les mouchoirs et les linges qui avaient touché son corps, et alors les malades guérissaient. Je pense à un témoignage que j'ai reçu de l'Allemagne il y a quelque temps. Une petite femme avait de l'arthrite et elle se déplaçait en fauteuil roulant depuis plusieurs années. Et c'était plutôt mignon quand mon bureau de l'Allemagne l'a traduit et me l'a envoyé, que sa lettre m'a été envoyée. Elle avait reçu ce petit tissu. Et je mentionne là-dessus que nous avons un groupe de prière qui prie toutes les 3 heures dans le monde entier. Et ça, c'est 24 heures sur 24, bien sûr. Et donc, elle avait pris ce petit tissu, l'avait épinglé sur elle et avait fait venir les gens, y compris son pasteur. Et ils avaient tous prié. Et elle avait confessé tout ce qu'elle savait qu'elle avait fait de mauvais. Alors, dès qu'elle a eu épinglé ce petit tissu sur elle, elle a dit, « Eh bien, toi, monsieur le diable, tu es fini. » Elle s'est levée de son fauteuil roulant et s'est mise à courir partout dans la maison, tout simplement. Elle avait dit, « Là, monsieur le diable, tu es fini. » Elle s'est mise à marcher. Elle allait bien, voyez. C'est juste que nous essayons de rendre Dieu si compliqué que les gens n'arrivent pas à le toucher. C'est pour cela qu'ils échouent. C'est tellement simple. Dieu a rendu la chose tellement simple. Je crois que l'Écriture dit quelque part, même un insensé ne pourrait s'égarer. C'est tellement simple. Et quand nous nous mettons à compliquer cela, alors nous nous éloignons complètement de lui. Voyez, son programme est réel. Simplement, Dieu habite au milieu de son peuple dans la simplicité. Si vous étudiez le moindre mot ou essayez de comprendre, eh bien, ne le faites pas. Prenez-le au mot comme un enfant et allez de l'avant. Ce soir, je veux lire comme passage de l'Écriture la première partie du verset 48 du chapitre 24 de la Genèse. Puis, je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Nous avons eu une journée plutôt chargée. Nous avons passé des moments glorieux au petit déjeuner ce matin. Et nous avons vraiment passé des moments merveilleux de communion fraternelle. Que Dieu bénisse à jamais ce mouvement Les hommes d'affaires chrétiens, nous les aimons. Ils font un grand travail. Ils essayent d'aider l'Église, voyez-vous, pour, en quelque sorte, comme je le dirais, puisque je suis un gars de la campagne, autrefois, nous gravissions la colline avec la charrette et nous allions ce que nous appelions caler les roues. Combien savent ce que ça signifie, caler les roues? Eh bien, je pourrais presque enlever mon veston et prêcher en chemise ce soir. Il y a beaucoup de gens de la campagne ici. Alors, caler les roues, eh bien, je pense que c'est ce que font les hommes d'affaires chrétiens. Ils calent les roues, juste pour aider à stabiliser le chargement, pendant que l'Église le tire vers le sommet de la montagne. Ces trois derniers soirs, nous avons parlé d'Abraham. Et hier soir, nous avons laissé Abraham au sommet de la montagne, en compagnie de son jeune fils, Isaac, qui avait été épargné de la mort. Une très belle image de Dieu le Père qui offre son propre fils. Il n'a pas épargné son propre fils. Et que Dieu, le grand créateur, Jéhovah Jireh, avait créé un bélier en un instant, en un clin d'œil. Eh bien, ce bélier n'était pas là quand Abraham était en train de disposer les pierres ensemble. Sinon, il l'aurait entendu. Mais juste au moment où il s'apprêtait à ôter la vie à son propre fils, le bélier était là, derrière lui, un bélé retenu par les cornes dans des vignes ou dans des arbrisseaux ou ce qui était au sommet de la montagne. Et nous avons parlé du pourquoi. Comment ce bélier s'est-il retrouvé là? Eh bien, il était à au moins 160 kilomètres de la civilisation, parmi les bêtes sauvages. Et ce bélier n'aurait pas pu se retrouver au sommet de cette montagne, où il n'y avait ni eau, ni herbe. Alors voyez-vous, il fallait que ce soit Dieu qui l'ait placé là-bas, parce qu'il est Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvoira lui-même d'un sacrifice. Et il est tout autant Jéhovah Jireh ce soir qu'il l'était à ce moment-là. Et s'il est Jéhovah Jireh, il est aussi Jéhovah Rapha, un autre nom en rapport avec la rédemption, qui signifie Jéhovah le guérisseur. Ces noms sont les noms composés de Jéhovah, et ils sont absolument indissociables. Il est Jéhovah, notre bouclier, Jéhovah, notre cuirasse, Jéhovah, notre bannière, Jéhovah, notre guérisseur, Jéhovah, notre sacrifice. Et vous ne pouvez pas dissocier ces noms, car s'il cesse d'être Jéhovah Rapha, alors il n'est pas Jéhovah Jireh. Et s'il est toujours Jéhovah Jireh, il est toujours Jéhovah Rapha, à la fois sauveur et guérisseur. Et donc, ce soir, nous allons prendre pour sujet un temps de décision. Et là, dans ce chapitre 24, nous sommes maintenant arrivés là où ce garçon qui était épargné sur la montagne et à la place duquel un bélier a été offert, lui indiquant par là qu'il offrirait son propre fils. Ce garçon avait donc perdu sa mère, Sarah. Son père se faisait vieux. Et le temps était venu où Abraham devait prendre une décision au sujet de la catégorie de gens dans laquelle son fils prendrait une épouse. Et je pense que c'est une bonne stratégie pour les fils d'Abraham de faire la même chose. Eh bien, il ne voulait pas que son fils épouse une de ces femmes cananéennes. Le temps était venu où il devait prendre cette décision. Et il y a des moments où nous sommes contraints de prendre une décision. Il y a des moments où nous sommes obligés de dire oui ou non. Et cela nous arrive à tous. Et Abraham était confronté à cette heure-là. Qui allait-il choisir comme femme pour son fils, puisqu'il savait qu'il était un enfant promis et que ce sang devait rester pur jusqu'à la venue du Messie? Il a donc envoyé Eliezer, son fidèle serviteur. Et alors, Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui était son serviteur au rang le plus élevé et un serviteur fidèle. Abraham a fait venir Eliezer, à qui il a demandé de mettre la main sur sa cuisse et de jurer par le Dieu du ciel qu'il ne laisserait pas Isaac prendre pour femme une Cananéenne et qu'il irait au sein de la famille des Hébreux, des gens de la parenté d'Abraham, pour y choisir une femme. Et par la suite, quand Eliezer a rassemblé ses chameaux et s'est mis en route, il en est arrivé au point où il fallait qu'il prenne une autre décision. Et cette décision consistait à savoir s'il allait se fier à son propre jugement ou s'il allait mettre sa confiance dans le jugement de Dieu. Et chacun de nous aura à faire face à cela avant de quitter ce bâtiment ce soir. Surtout vous qui êtes malades et affligés. Vous êtes forcés d'en arriver là. Eliezer, une fois arrivé à la porte de cette ville, allait-il maintenant s'appuyer sur son propre intellect pour essayer de choisir la femme qui, selon lui, serait peut-être la plus appropriée pour devenir la femme du fils de son maître? Allait-il se fier à son propre jugement? Pouvait-il aller dans la ville, regarder partout et trouver la femme la plus séduisante? Ou ce qu'il pensait être, à son avis, être ce qui est le mieux pour lui? Et je pense qu'Eliezer a pris une grande décision quand il a dit qu'il ferait confiance à Dieu pour cela. Eh bien, vous serez contraint de faire la même chose. Êtes-vous, après ces environ 12 ou 13 soirs où le Saint-Esprit a continuellement agi, à prouver par sa parole et à présenter ses signes visibles qu'il avait été prophétisé que le Messie ferait en ces jours, avant la destruction du monde? Chaque poteau indicateur l'indique. Et maintenant, ce soir, quand on priera pour vous, allez-vous mettre votre confiance dans vos pensées intellectuelles? Ou allez-vous mettre votre confiance en Dieu pour ces choses? Je crois et j'espère que vous allez remettre cela entre les mains de Dieu. Décidez maintenant que vous mettrez votre confiance dans la sagesse de Dieu et non pas dans votre manière de penser. Si vous le faites, vous ne vous tromperez jamais. Parfois, il est tellement difficile pour l'esprit humain de saisir les voies de Dieu qu'on se dit que c'est ridicule. Et la foi est ridicule aux yeux de l'esprit charnel. Elle est insensée aux yeux de tous, sauf aux yeux de Dieu et de celui qui a la foi. Alors, par la foi, nous voyons, nous croyons des choses que nos yeux, que notre pensée ne perçoit pas, simplement parce que nous croyons cela. Raisonner, eh bien, on ne pourrait jamais se trouver dans le vrai par le raisonnement. Donc, nous ne pouvons pas raisonner la chose. Étudier la chose, nous ne ferons que nous embrouiller l'esprit. Et il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est d'avoir la foi que ce que Dieu promet, Dieu est capable de l'accomplir. Ça règle la question. N'essayez pas de dire, eh bien, comment est-ce possible? Nous vivons à une époque moderne. Ôtez ça de votre esprit. N'hésitez pas du tout. Prenez-le simplement au mot. Prenez cette décision tout de suite que ce que Dieu dit, Dieu peut y rester fidèle. Il ne m'appartient pas de comprendre la chose. Parce que si je le fais, à ce moment-là, je travaille dans les sphères intellectuelles. Dieu n'agit pas dans la tête, il agit dans le cœur. Maintenant, nous voyons qu'Eliezer a décidé, quoi qu'il soit un brave homme, qu'il soit chargé d'une grande mission, et qu'il soit lié par un serment. Or, quand un homme en arrive là, c'est le moment de ne pas s'appuyer sur sa propre manière de penser. Alors, il s'est agenouillé et s'est mis à prier. Et il a dit, « Seigneur, si tu as béni mon voyage et m'as amené ici, fais que la première jeune fille qui viendra de la ville pour chercher de l'eau, car c'est vers le soir qu'elle sortait pour aller chercher de l'eau, alors il a dit, si je vais lui demander à boire, voyez-vous qu'il demande un signe à Dieu, s'il me donne à boire et dit, je vais aussi abreuver tes chameaux. Ce sera celle que tu auras choisie. Il a remis cela à Dieu. Que ce soit ton choix, Seigneur. Oh, si seulement nous pouvions apprendre à être des serviteurs de Dieu fiables comme ça, des gens capables de remettre les choses à Dieu. C'est la chose la plus puissante que je connaisse quand on remet les choses. Remets ton sort à l'Éternel. Remets-lui tes pensées. Si vous êtes malade et que les médecins ne peuvent plus rien faire pour vous, alors remettez simplement votre cas à Dieu et agissez comme si c'était déjà réglé. Quelque chose se produira forcément. Il ne peut tout simplement pas en être autrement, parce que Dieu est un créateur. La parole de Dieu est une semence. Une semence doit être plantée en terre. Et si on arrose cette semence, elle prend vie. Si c'est une semence féconde, Jésus a dit que la parole est une semence. Alors, si la semence est tombée dans votre cœur, et que, par la foi, en croyant, vous arrosez cette semence, elle produira exactement selon son espèce. Ah, vous pouvez prendre bonne note de ce que je dis là. Après 30 ans de prédication, je peux dire ceci, que jamais il n'est arrivé que lorsque j'ai demandé quoi que ce soit à Dieu, sincèrement, et que je lui ai remis la chose, soit il me l'a accordé, soit il m'a dit pourquoi il ne pouvait pas me l'accorder. Et si vous adoptez la bonne attitude mentale à l'égard de n'importe quelle promesse divine que Dieu a faite, cela fera en sorte que ça s'accomplira. Si vous dites simplement, c'est la parole de Dieu, il ne m'appartient pas de chercher à comprendre cela. C'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui l'a déclaré. Et c'est tout ce qui compte. Quelque chose va se produire. Le succès, s'il y en a eu, pour la gloire et l'honneur de Dieu. Vous, je n'ai pas reçu d'instruction pour devenir un prédicateur. Et Dieu sait que je ne suis pas un guérisseur. Mais il s'agit simplement de prendre Dieu au mot. Il a dit qu'il le ferait. Ces visions, c'est parce que l'ange qui est venu à moi et qui m'a confié cette commission, il m'a dit ces choses. C'est pour cela qu'il n'a jamais failli et qu'il ne faillira jamais. Parce que c'était de Dieu. Ça fait une quinzaine d'années. Et depuis l'âge d'environ un peu plus de 2 ans, j'ai eu ma première vision. Il y en a eu littéralement des centaines. Et aucune d'elles n'a jamais failli. Et ça ne faillira jamais, parce que c'est Dieu qui fait ces choses, et non l'homme. Si ça avait été moi, il y a longtemps que ça aurait cessé. Alors, comme Eliezer a cru et s'est remis à Dieu, eh bien, ils auraient pu chercher dans le monde entier. Ils auraient pu passer chaque ville au peigne fin ou aller dans chaque maison. Mais ils n'auraient jamais pu trouver une meilleure compagne pour Isaac que Rebecca. Même jusqu'à ce jour, quand je marie les gens, mon vieux rituel que j'utilise pour les unir, j'utilise ça. C'est le vieux rituel méthodiste wesleyen. Comme Isaac et Rebecca qui ont vécu heureux ensemble, qu'il en soit ainsi de ce couple. Ils étaient amoureux l'un de l'autre, et c'était un type de Christ et l'Église. Et si vous remarquez, à peine avait-il fini de parler dans son cœur, fini de faire sa prière, voici venir la plus charmante dame du pays tout entier, une belle jeune fille israélite, ayant une cruche sur la hanche, sous le bras, qui avançait là. Et peut-être qu'elle méditait sur la bonté de Dieu, et ce pourquoi elle était ici sur terre. Tout à coup, elle est descendue à la source, a puisé de l'eau. Elle s'est tournée pour reprendre le chemin du retour. Et un gentil vieillard, qui se tenait là, lui a dit, « Voudrais-tu me donner juste un peu d'eau à boire ? N'auriez-vous pas voulu vous tenir là pour sentir l'Esprit du Dieu vivant agir, accomplir quelque chose ?» Elle lui a donné à boire et a aussi puisé pour les chameaux. Puis est venu le moment où il lui fallait prendre une décision. Il lui a donné des bracelets et tout, et il lui a raconté l'histoire. Bon, écoutez, tout ce qu'elle avait, c'était ce que le serviteur d'Abraham lui avait raconté. Bon, or, la foi vient de ce qu'on entend. Elle a appris qu'Abraham avait un fils et qu'il était l'héritier de tout ce qu'Abraham possédait. Et ces petits cadeaux, ce n'était qu'une toute petite chose, juste un petit symbole de l'immense richesse d'Abraham. Que son fils allait hériter de tout cela. Elle a cru cette histoire. Et son père et sa mère ont cru cette histoire. Et il a dit, « Eh bien, ne me dérangez pas, là. N'arrêtez pas le Seigneur, parce que je me mets en route. Laissez-moi prendre la jeune fille et qu'on s'en aille. » Bien sûr, vous savez comment la mère s'est sentie à ce sujet. Elle a dit, « Eh bien, attendons au moins 10 jours. » Son frère, Laban, a aussi dit, « Accorde-lui 10 jours pour prendre sa décision. » C'est à elle de prendre sa décision. Accorde-lui 10 jours. Alors, le serviteur fidèle, le serviteur modèle, a dit, « Non, laissez-la partir maintenant. » Alors, ils ont décidé que Rebecca devait prendre sa propre décision. Et c'est ce que vous devez faire ce soir. Vous devez prendre votre propre décision. Vous ne pouvez pas accepter la décision de quelqu'un d'autre. Ce qu'il a dit, ce sera l'attitude que vous aurez à l'égard du message que vous entendez. Vous ne pouvez pas accepter ce que, lorsque le médecin vous a abandonné, il a dit que vous alliez mourir. Alors, soit vous croyez ce qu'il a dit, votre mère dit, si tu vas là-bas, à l'Angelus Temple, et que tu t'embrouilles avec tout ce qu'on enseigne là-bas, au sujet du baptême du Saint-Esprit, et de toute cette religion, eh bien, tu vas perdre la raison. Peut-être qu'elle fait partie de certaines grandes associations par ici. Ou peut-être que votre père vous a découragé. Mais vous, en tant qu'individu, vous devez prendre votre décision. Il ne s'agit pas de ce qui que ce soit d'autre dit. Il s'agit de ce que vous pensez. Quand vous entendez le message selon lequel Christ guérit les malades, il s'agit de votre propre attitude, de votre décision. Alors, ils ont fait venir la jeune fille, Rebecca. Il se peut que la conversation se soit déroulée comme ceci. Rebecca, nous t'avons nourrie et élevée au mieux de notre connaissance pour que tu demeures une jeune fille vierge. Et c'est ce que tu es. Mais voici qu'un inconnu vient parmi nous en apportant une preuve qu'il y a un homme riche qui va donner à son fils toutes ses bénédictions. Veux-tu aller avec lui maintenant ou veux-tu te donner une dizaine de jours pour prendre ta décision? Maintenant, souvenez-vous, le serviteur a dit, « Je veux me mettre en route. Dieu m'a fait grâce et je suis prêt à me mettre en route. » Dieu, ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est pareil pour le message quand il est proclamé. Vous entendez parler d'un roi, Dieu, dont le Fils, Christ, est héritier de toutes choses. Et nous en avons un petit avant-goût par le Saint-Esprit. Que pensez-vous de lui? Avez-vous foi en lui? Souvenez-vous, elle devait choisir par la foi. Elle n'avait jamais vu cet homme. Mais elle devait choisir par la foi et en se basant sur les paroles d'un serviteur. C'est la même chose que vous devrez faire, parce qu'il ne saurait en être autrement. Dieu envoie ses serviteurs et il prêche la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'en pensez-vous? C'est à vous de faire votre choix. Je vous conseillerais de ne pas remettre cela plus tard. Vous dites, « Eh bien, j'ai toujours désiré ardemment recevoir le Saint-Esprit. Je ferais mieux d'y réfléchir. » N'y réfléchissez pas. C'est maintenant le moment. C'est la vérité. Je crois que Dieu me guérira un jour. Tant que vous gardez cela à l'esprit, vous êtes une personne vaincue. Dieu vous a guéri il y a 1900 ans. C'est maintenant le jour de votre décision. Quand vous entendez le message qui déclare que Christ était blessé pour vos transgressions et que c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéri, c'est maintenant le moment de croire cela. Il y a d'autres décisions que vous devez prendre. Avant de vous marier, vous devez décider quelle jeune fille vous prendrez pour femme. Et vous, les femmes, vous devez décider quel homme sera votre mari. Vous feriez mieux de ne pas remettre cela plus tard trop longtemps, parce qu'il pourrait changer d'avis, comme la femme qui était ici il y a quelque temps. Elle avait deux prétendants, et tous les deux étaient de braves hommes, et elle n'arrivait pas à décider lequel elle allait épouser. Et elle a perdu les deux. Ainsi, Dieu veut une action immédiate. Si vous l'aimez, mettez tout le reste de côté et acceptez-le. Si vous croyez sa parole, mettez tout le reste de côté et acceptez sa parole. C'est un temps de décision. Vous devez prendre votre décision. En politique, vous devez décider pour qui vous allez voter. Au moment de s'offrir une voiture, la famille doit décider quelle voiture elle va acheter. Bien des fois, vous êtes contraint de prendre une décision. et vous en êtes presque arrivé là en ce moment. Amis pécheurs, ici, et qui nous écoutent à la radio, tous deux, vous en êtes maintenant là. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Vous dites, oh, eh bien, prier, ça m'importe peu. Je suis encore jeune, et je ne pense pas que je doive le faire maintenant. Ne remettez pas cela à plus tard trop longtemps. Tenez, il y a quelques semaines, beaucoup d'entre vous qui nous écoutez à la radio ici, vous êtes très au courant de l'histoire de cet avion qui s'est écrasé là-bas dans les États de l'Est, à New York, et qui a entraîné la mort par noyade de tous ces gens alors qu'ils essayaient de passer sous le pont. Environ deux semaines auparavant, il y avait eu un procès qui portait sur une propriété là-bas, sur le Bowery. Et il y avait là quelques petits prédicateurs qui savaient à peine signer leur nom. Ils étaient sans instruction. Et un grand avocat du nom de Greenwald en faisait voir de toutes les couleurs à ces braves hommes. On leur disait, débarrassez-vous de ça, que pourriez-vous en faire? Vous n'êtes pas capable de donner fière allure à ce bâtiment. Mais ils avaient un titre de propriété incontestable et ils tenaient à le conserver. On leur disait, que pouvez-vous faire pour ça alors que vous savez à peine signer votre nom? Il nous le faut pour autre chose. Ces braves hommes se sont avancés à la barre. L'un d'eux s'est levé et a dit, messieurs, il est vrai que nous sommes sans instruction et que nous ne pourrions pas améliorer cette propriété. Mais le Seigneur nous a conduits à acquérir cet endroit. Le Seigneur nous a dit de le faire. Et M. Greenwald s'est levé et tout furieux, il a dit, nous n'avons pas besoin de Dieu dans cette affaire. Nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. N'invoquez surtout pas Dieu dans cette affaire. Nous ne voulons pas de lui dans cette affaire. Deux semaines plus tard, il est mort noyé dans cette eau lors de cet accident d'avion. Je me demande s'il a eu le temps ou s'il a voulu faire appel au Seigneur à ce moment-là ou pas. Vous voyez, il arrive un temps où vous êtes contraint. Alors faites attention à ce que vous dites. Il y a deux ans, j'étais à Phoenix, en Arizona. Et M. Brown, beaucoup d'entre vous le connaissent, M. Young Brown, le collaborateur de frère Jack Moore, nous essayons de trouver un hôtel meilleur marché. Je ne crois pas que c'est... Je ferais mieux de ne pas dire ça. Eh bien, j'ai déjà commencé, autant continuer. Je ne crois pas que c'est une bonne chose. Et je ne crois pas que c'est... C'est en ordre. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien, mais je ne pense pas que ce soit convenable pour un chrétien de chercher à voir ce qu'il y a de mieux. J'en ai assez d'entendre les gens dire, « Oh, je n'irai pas à cet endroit-là. Je n'ai pas encore vu l'endroit où je ne peux pas aller pour la cause du Seigneur. Peu m'importe où ce serait. Que ce soit une petite mission, que ce soit n'importe où, peu m'importe. Je ne pense pas que nous devrions essayer de faire beaucoup de faux semblants. Ce que nous appelons, comme on le dit dans le monde, faire de les pattes. Je ne pense pas que nous devrions faire cela, chrétien. Ce n'est pas convenable pour un chrétien. Notre Seigneur n'avait même pas d'endroit où poser sa tête. Il n'avait pas de maison où habiter. Comme je l'ai dit ce matin, mon petit garçon m'a dit, il y a quelques semaines, environ une semaine avant que je vienne en Californie, alors qu'il était couché sur le divan à regarder la photo de Jésus accrochée plus haut. Il a dit, « Jésus, a-t-il un bateau ? » Il aime beaucoup la pêche. Je me suis dit, « Non, quand il prêchait l'Évangile, il lui fallait emprunter un bateau. » Mais il est le capitaine du vieux bateau de Sion. Beaucoup trop de choses fabriquées. Nous n'en avons pas besoin. Et l'Église, pour être au petit soin pour moi, m'avait logé dans un hôtel très luxueux. Je ne savais même pas comment utiliser les fourchettes qu'ils avaient mises sur la table et toutes ces choses qu'ils avaient mises là. Il me fallait observer quelqu'un d'autre pour voir quelle fourchette il allait prendre. Je ne savais pas comment m'en servir. Je voulais partir de là et j'essayais de me trouver un hôtel bon marché. Comme je roulais ça et là dans la ville, j'ai dit, « Frère Brown, va là-bas, je vais aller me garer de l'autre côté de la rue et nous allons t'attendre. » Il a dit, j'ai dit, « Demande-leur s'ils ont une chambre. » Et cela semblait être un hôtel de troisième ou de quatrième classe. Il y est donc allé et quelques instants plus tard, il a traversé la rue en courant et il a traversé en dehors du passage clouté. Je pense que c'est le terme qu'on emploie ici. Ça coûte 15 dollars d'amende. Mais il a traversé la rue en dehors du passage clouté. Et un petit agent de police se tenait là. Oh là là, comme il l'a taillé en pièces. Il lui a demandé, d'où êtes-vous après tout? Et frère Brown est à peu près comme moi. Il ne sait pas bien s'exprimer. Il a dit, « Je suis de Louisiane. » Il a dit, « Voulez-vous insinuer qu'on vous permet de traverser la rue en dehors du passage clouté en Louisiane ?» Il a dit, « Nous marchons où bon nous semble. » Alors il a dit, « Pour traverser la rue ?» Il a dit, « Oui. » Il a dit, « Vous montez. » Monsieur Moore a dit, « Non, j'atteste de ce qu'il dit. » A-t-il dit, « À Shreveport, où nous habitons, nous pouvons marcher comme bon nous semble. » Donc on est... à condition de faire attention au véhicule. Oh, et ce petit agent de police est devenu arrogant. Et M. Brown a dit, « Monsieur, je vous dis seulement la vérité. » Il a dit, « Vous l'avez fait juste pour faire le malin, parce que vous m'avez vu là, au coin de la rue, et vous saviez que je suis un policier. Vous savez, un de ces petits gars qui veulent se mettre en valeur. » Alors il a dit, « Vous faites simplement le malin. Je vais vous emmener et vous mettre en prison. » Il a dit, « Monsieur, vous pouvez me mettre en prison. » Si c'est là votre règlement. Mais il a dit, je suis un ministre de l'Évangile, a-t-il dit. Je ne mens pas, je suis honnête. Si j'avais su qu'il ne fallait pas faire ça, je ne l'aurais pas fait, a-t-il dit. Mais je ne le savais pas. Oh, il est devenu très désagréable à ce sujet. Et je lui ai dit que j'étais un ministre et que M. Moore était un ministre. Il y avait deux autres ministres dans la voiture. Oh, il s'est vraiment emporté à ce moment-là. Des ministres, des transgresseurs de la loi. Et j'ai dit, nous ne sommes pas des transgresseurs de la loi, monsieur. J'ai dit, nous sommes des hommes honorables qui prêchent l'Évangile. Et quelque chose m'a dit ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. J'ai simplement arrêté de parler à cet homme. J'ai gardé la tête baissée et je l'ai laissé parler, jusqu'à ce qu'il ait fait sortir toute la vapeur. Après cela, il nous a fait des menaces et tout. Et bien évidemment, si l'affaire avait été portée devant un juge, cet homme aurait prouvé qu'il ne le savait pas. Nous n'étions dans cette ville que depuis deux jours. Et il était logé sur l'une des rues secondaires, loin là-bas. Au King's Court, ou quelque chose comme ça. Et il ne savait rien à ce sujet. Mais cet agent de police agissait ainsi par pure méchanceté. Mais vous savez, la Bible dit, « Ne touchez pas à mes oints. » J'ai dit, « Eh bien, as-tu trouvé la chambre, frère Brown ?» Il a dit, « Il n'en avait pas. » J'ai dit, « Eh bien, je vais retourner là-bas. » Nous avons repris la route et je les ai ramenés où ils logeaient, à environ 6 pâtés de maison ou un peu plus. Et je suis revenu juste à temps pour voir cet homme essayer de contourner un homme qui tournait à droite. Et il s'est fait écraser sous les roues. J'ai arrêté ma voiture et je me suis garé sur le côté pour m'assurer qu'il s'agissait bien de cet agent de police. Et c'était bien lui. Cet agent de police s'était retrouvé sous un camion qui tournait à droite. C'était la faute de l'agent. Ses pneus avaient glissé sur le côté. Et il s'était retrouvé directement sous les grosses roues de ce camion. Il était là, le corps écrasé. Les jambes brisées, les bras brisés, il n'arrivait pas à crier, il était inconscient, on l'a retiré de là. Je me suis tenu là et je me suis dit, maintenant, qu'en est-il? Vous voyez, parfois vous vous retrouvez dans une situation difficile. Assurez-vous de prendre la bonne décision. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Prenez vos décisions. Peut-être qu'il arrive que vous ayez de l'argent que vous voulez mettre de côté. C'est possible, peut-être que vous et votre femme avez économisé de l'argent et que vous en avez suffisamment à mettre de côté pour en quelque sorte subvenir à vos besoins dans vos vieux jours. C'est en ordre, ça. C'est une chose légitime à faire. Mais alors, peut-être, Qu'en sera-t-il si le moment vient de mettre cela de côté? Vous devez prendre une décision quant à l'endroit où vous allez le placer. Bon, si je venais vous voir et que je vous disais, « Eh bien, voici une affaire dans laquelle vous pouvez faire votre placement. C'est une, oh, l'une de ces entreprises douteuses, vous savez. Mais devenir riche du jour au lendemain, placer cela là-dedans, c'est un peu risqué. » Vous diriez, « Non, monsieur, je ne placerai pas mon argent dans pareille chose. » Parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais que rechercheriez-vous comme endroit pour garder cet argent, sachant que si vous le perdiez dans votre vieillesse, vous vous retrouveriez probablement en train de mendier dans la rue. Mais grâce à cet argent, si vous le placiez au bon endroit, vous auriez la sécurité dans votre vieillesse. Vous savez ce que vous feriez? Vous rechercheriez la meilleure entreprise possible. Une entreprise fiable qui est là depuis longtemps et vous investiriez votre argent. Certainement, parce que vous ne voudriez pas vous retrouver à la rue dans votre vieillesse. Vous décideriez rapidement, même si cela ne rapportait pas autant de dividendes, vous voudriez toutefois que votre argent soit en sécurité. Si vous vous préoccupez tant de votre vieillesse dans cette vie-ci, qu'en est-il de la vie éternelle? Qu'en est-il de la vie que vous aurez à mener dans l'au-delà? Vous êtes. Les gens d'aujourd'hui sont un peu comme Eliezer. Il y avait beaucoup de femmes dans cette ville, de jeunes filles parmi lesquelles il pouvait choisir, mais il n'a pas fait son propre choix. Il s'est fié au choix de Dieu. Il a pris celle qui avait un signe surnaturel, qui était une réponse à la prière, quelqu'un soumis au Seigneur. Et aujourd'hui, vous voulez trouver un endroit où placer votre argent. Il arrive de nos jours qu'on veut trouver un endroit où devenir membre, un endroit où on veut aller à l'église. Et il y a beaucoup d'églises qu'on peut fréquenter. Il y a beaucoup de formes de religion qu'on peut pratiquer. Mais vous devez faire un choix entre vous soumettre à une église spirituelle ou à une église formaliste. Vous devez prendre votre décision. Vous devez prendre le chemin avec l'église que Jésus a établie le jour de la Pentecôte. Ou vous devez accepter l'un de ces credos faits de main d'homme que nous adorons aujourd'hui. Vous devez faire votre choix. Vous pensez peut-être qu'on la méprise un peu, mais elle est fiable. Si elle ne l'était pas, Christ ne l'aurait pas établie. Si ce n'était pas le cas, Paul n'aurait pas reçu le Saint-Esprit. Tous les apôtres n'auraient pas reçu le Saint-Esprit. Parce que le Dieu du salut a dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Tout comme Eliezer, observez pour voir ces signes sur la jeune fille. Vous devrez observer pour voir le signe de l'Église. Parce que Jésus l'a dit, « Je me fiche de ce que l'homme dit. Je sais que les hommes disent que les jours des miracles sont passés, que toutes ces choses sont passées. » Est révolue de nos jours, qu'elle n'existe plus. Eh bien, vous devez faire un choix. Jésus a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vérité. Alors, vous devez prendre une décision. Vous devez faire un choix. Et il se peut que ceci soit votre dernière occasion de faire un choix. Il se peut que demain soit trop tard. Dieu vous a peut-être choisi pour la vie éternelle. Mais si vous ne prenez pas la décision de l'accepter, quelqu'un d'autre prendra votre place. Peut-être que demain, ce sera le moment. Il se peut que Dieu veuille vider toute cette rangée de fauteuils roulants qui se trouve ici ce soir. Je sais qu'il le veut. Il se peut qu'il soit. Je sais qu'il veut guérir chaque personne malade ici. Ce soir, vous devrez faire votre choix. Vous dites, « Eh bien, frère Branham, vous formerez une ligne de prière demain soir. » Laissez ça pour quelqu'un d'autre. Vous devez prendre votre décision au plus vite. Qu'est-ce que Rebecca a dit? Elle a dit, « J'irai maintenant. » Gloire à Dieu, c'est ce que nous voulons faire. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le moment de prendre la décision. Ici, toute cette semaine, Dieu a agi et il a accompli toutes sortes de signes de miracles et de promesses. Maintenant, qu'allez-vous faire à ce sujet? C'est à vous maintenant de prendre votre décision. Le temps de décision vient pour tout le monde. Et quand vous voulez quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, certainement, eh bien, si vous pouvez vous appuyer, sur quoi préféreriez-vous vous appuyer? Un credo conçu par un homme? Ou vous appuyer sur la Bible, les écrits des apôtres et de Jésus-Christ? Je crois que le Saint-Esprit que Jésus a dit allait venir sur les apôtres et allait venir sur quiconque croirait cela, les brebis des autres bergeries. Je crois que ce même Saint-Esprit, vous pouvez vous appuyer sur lui. Il produira dans votre vie exactement ce qu'il a produit dans leur vie à eux. Maintenant, est-ce que je voudrais rencontrer Dieu? Est-ce que je voudrais le rencontrer? Est-ce que j'oserais le rencontrer avec rien moins que cela? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, je crois que vous n'avez pas nécessairement besoin de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez le recevoir. Sinon, vous êtes perdu. » La Sainte Vierge Marie, qu'on appelle la Mère de Dieu, si le baptême du Saint-Esprit est tellement essentiel pour faire partie de l'Église du Dieu vivant, et il n'a pas de dénomination. Je fais partie de la famille Branham depuis 50 ans, et on ne m'a jamais demandé de me joindre à cette famille. Pourquoi? Je suis un Branham de naissance. C'est comme ça qu'on est chrétien. On entre dans l'Église du Dieu vivant par une naissance. On n'y entre pas par adhésion, ni par baptême, ni par une poignée de main. On n'est ni admis par une lettre, mais on y naît par la nouvelle naissance. Voilà ma décision. Parce que Christ a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Et si Dieu a exigé de Marie, la Sainte Vierge, lisez Acte 2. Avant que Marie puisse entrer dans le royaume, il lui a fallu monter dans la chambre haute. Et il lui a fallu attendre là-bas, comme tous les autres. Pas jusqu'à ce qu'un ministre vienne inscrire son nom dans le registre, ni quand on aurait donné une sorte de communion, ou que quelqu'un lui ait serré la main, ou qu'on lui écrit une lettre à remettre à son église, comme nous le faisons aujourd'hui. Mais il est venu du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Et ils sont sortis de ces pièces en parlant d'autres langues, tellement remplis du Saint-Esprit, qu'ils titubaient comme des gens ivres. La Bible dit, et si Marie a dû aller chercher ce genre de religion pour pouvoir être dans la gloire, vous n'y entrerez jamais à moins d'avoir la même chose. Prenez votre décision. Qu'allez-vous faire à ce sujet? C'est pour vous un temps de décision. Quand ce boiteux était à la porte, qui avait une infirmité au pied depuis des années, lorsque l'apôtre Pierre et Jean ont passé la porte, appelé la belle, il y avait un boiteux qu'on portait et qu'on plaçait là depuis des années. Il a demandé l'aumône et a fixé les yeux sur Pierre, lui qui était le porte-parole, un homme illettré, incapable de signer son nom. L'Écriture dit qu'il était un homme du peuple, sans instruction. J'imagine qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Comme il passait la porte, c'est possible qu'il se soit dit que ce vieux pécheur avait peut-être une pièce de monnaie supplémentaire. Et il a présenté son petit bol. Et Pierre, l'ayant regardé, a dit, « Je n'ai ni argent, ni or. » Il n'aurait pas pu loger dans un très bon hôtel, n'est-ce pas? « Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je vais le partager avec toi. » Il a dit, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Qu'en serait-il si cet homme avait dit, « Mais un instant là, monsieur, vous ne comprenez pas ma situation, c'est différent. N'ai-je pas essayé de faire cela pendant 40 ans? à ma naissance. Je suis sorti du sein de ma mère, infirme. Cela lui a peut-être traversé l'esprit, mais il lui fallait prendre une décision. Allait-il écouter ce que Pierre avait dit? Était-ce la vérité? Y avait-il quelque chose de convaincant dans la voix de cet homme? Il avait entendu parler de ce Jésus de Nazareth. Il avait entendu dire qu'il était un grand homme. Et Jésus était passé par cette même porte. Mais là, il lui fallait décider si cet homme savait de quoi il parlait ou pas. Et lorsqu'il a pris sa décision, Pierre l'a pris par la main et l'a fait lever. Il l'a maintenu debout pendant un moment, jusqu'à ce que ses jambes prennent des forces. Et il s'est mis à marcher, à bondir, à sauter et à louer Dieu. Il avait pris la bonne décision. Vous devez prendre une décision. Allez-vous vous palper en vous demandant « Mon cœur va-t-il mieux? Mon estomac se porte-t-il mieux qu'avant? Est-ce que je peux bouger mes doigts un peu plus ?» Ne vous préoccupez pas de cela. Prenez la décision que Christ vous guérit, que ça règle la question et que vous êtes guéri. Qu'en serait-il si un fermier allait ensemencer un grand champ de blé et que chaque matin, il allait là-bas et déterrait tout ce blé pour voir s'il allait germer ou pas? Tant qu'il déterrera ses semences, elles ne pousseront jamais. Chaque fois qu'on les déterre, on retarde la croissance d'un jour. Et chaque fois que vous regardez à vos symptômes, ça vous retarde aussi dans votre guérison. Le fermier confie simplement là la semence à la terre. Il se procure la meilleure semence qu'il puisse trouver et la met en terre parce qu'il a pris la décision d'avoir une récolte. Il va donc chercher la meilleure semence qu'il puisse trouver. Or, il n'aurait pas trop foi en une récolte qui serait mélangée avec de la stramoine et de la passerage, des marguerites et tout. Il n'aurait pas trop foi en ce genre de semence. Mais s'il se procure la meilleure semence qu'il puisse acheter, une semence féconde, une semence hybride, et la met en terre, il confie simplement cela à la terre et ne regarde plus cela. C'est à Dieu de s'occuper du reste. Et la meilleure semence que je puisse trouver, c'est la parole de Dieu, parce qu'elle est éternelle. Confiez-la simplement à votre cœur, pas à votre tête. Vous la déterrerez sans arrêt. Vous la retournerez en disant, « Eh bien, si le docteur Untel l'a dit, mon pasteur a dit que les jours des miracles sont passés. Mettez-la dans votre cœur. Laissez-la tranquille. Commencez à agir comme si vous aviez déjà votre récolte. Aiguisez vos faucilles. Préparez-vous à aller au champ. Ne la déterrez pas tous les matins. Laissez-la là, tout simplement. Si elle est féconde, elle réussira. Elle produira une récolte. Ce n'est pas... Écoutez, si je posais la question ce soir au sujet des cas de cancer, de cécité, d'estropié, de boiteux, de paralytique, des dizaines de milliers de cas de maladies de toutes sortes sont guéris. Ça marchera si vous la mettez au bon endroit. Mais si vous la mettez sur l'étagère, elle ne vous servira jamais à rien. Jésus n'a-t-il pas dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, à moins que vous puissiez prendre ce blé et que vous n'essayiez pas de le retourner pour le regarder et faire des suppositions à son sujet, confiez simplement cela à votre cœur et passez à autre chose. C'est votre décision que Dieu se chargera du reste. Maintenant, juste en terminant, j'aimerais dire ceci. Quant à notre petit sujet de ce soir, la décision. Eliezer, avez-vous remarqué que lorsqu'il est arrivé, Isaac était un type de Christ. C'est par Isaac qu'est venu Christ. Et Rebecca, quant à elle, était un type de l'Église. Avez-vous remarqué l'épouse? Eliezer a trouvé Rebecca vers le soir. Le signe s'est accompli vers le soir. C'est le temps où nous vivons. J'espère que vous saisissez ceci. C'est vers le soir que Rebecca est sortie, conduite par l'Esprit. Croyez-vous cela? Comment serait-elle venue s'il en était autrement? Il se peut qu'il y en ait eu beaucoup avant elle.
By the Spirit in the evening time.
Mais c'est vers le soir qu'elle était conduite par l'Esprit. Et Eliezer, le messager, le ministre, le fidèle serviteur de son maître, c'est vers le soir qu'il a été conduit. Et ce fidèle serviteur avait laissé derrière lui ses credos et tout, et avait pris la décision de mettre sa confiance en Dieu vers le soir. Je me demande pourquoi Rebecca est arrivée avant toutes les autres filles. Saviez-vous que Rebecca et Isaac étaient parents par le sang? Des cousins, et l'épouse de Jésus-Christ et lui sont parents par le sang. Une épouse rachetée par le sang. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait été conduite par l'Esprit. Il y avait un lien en cours. Il y avait une union en cours. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ont un lien avec Dieu et sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'aux yeux des gens, ils se conduisent si bizarrement. Ils ont pris leur décision. Ils vont aller de l'avant. Peu importe si tous les autres n'y vont pas, ils vont quand même aller de l'avant. J'aime ça. Peu m'importe si celui-ci marche ou si celui-là marche, je vais quand même marcher. Peu m'importe que celui-ci, si ce qu'ils disent, qu'ils m'appellent comme ça leur chante, je vais quand même y aller. Pourquoi? La vie est dans le sang. Et la vie est dans l'Église. Le chrétien qui est né de nouveau par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. Parents de Christ par le sang, l'Esprit de Christ dans le sang de Christ, qui conduit l'enfant de Christ, la postérité d'Abraham. C'est pour ça qu'ils agissent d'une manière bizarre. C'est pour ça que le monde a une si étrange opinion d'eux. Et souvenez-vous, Rebecca, elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait, mais elle a abreuvé le même animal, le chameau, qui devait l'emmener vers son époux, son mari, son amoureux. Et une bête de somme dans la Bible représente toujours une puissance, comme la bête qui est montée de la mer dans l'Apocalypse. C'était une puissance qui s'élevait parmi les gens. Et cette bête était abreuvée. Rebecca, qui a breuvé la bête même, qu'elle a montée, qui l'a fait quitter le lieu où elle était pour l'emmener vers sa nouvelle demeure. C'est un type de l'Église d'aujourd'hui qui abreuve et bénit le même Saint-Esprit qui va l'élever et l'emporter vers sa nouvelle demeure. L'Église qui loue, qui bénit et qui abreuve avec des actions de grâce le Saint-Esprit qui vous a apporté la parole. Le chameau a transporté le messager, Eliezer, le véritable messager qui cherchait un signe quant à la femme qu'il allait prendre, qui était le choix de Dieu, parce qu'il allait observer pour voir le surnaturel. J'espère que vous ferez la même chose. Observez pour trouver l'endroit où les signes se produisent. C'était la seule différence qu'on pouvait faire entre Moab et Israël. En fait, fondamentalement, les deux avaient raison. Fondamentalement, Cain et Abel avaient tous les deux raison. Cain a bâti église. Abel a bâti une église. Cain a offert un sacrifice. Abel a offert un sacrifice. Cain a adoré. Abel a adoré. Alors, si fréquenter l'église, avoir un credo, adorer, contribuer financièrement, faire des sacrifices, si c'est là tout ce que Dieu exige, c'était injuste de sa part de détruire Caïn. Mais telle voie paraît droite à un homme. Abel avait la révélation. Et regardez donc, quand ce même groupe, observez-les, comment le peuple de Caïn d'un côté et le peuple de Seth de l'autre, la mort d'Abel et la venue de Seth, représentait la mort et la résurrection de Christ. Observez comment ces deux postérités ont évolué, ces deux lignées de sang. Du côté de Caïn, ils sont devenus des hommes intelligents, des hommes de science, des hommes instruits, des érudits. De l'autre côté, c'était d'humbles paysans. Ils trompaient le fer, ils travaillaient le métal, c'était de grands bâtisseurs, des scientifiques, des gens très religieux. ça n'a pas changé. Vous voyez comment on commençait? Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Observez l'évolution de ces deux arbres depuis l'Éden. Les voici qui arrivent en Israël. Un petit groupe de gens qui n'appartient pas du tout à la dénomination. Ils errent ça et là. Ils habitent dans des tentes. Puis, ils arrivent là, s'arrêtent à la frontière du pays et demandent à leur frère Moab, qui est un croyant en Dieu, s'ils peuvent simplement traverser le pays. Ils n'allaient leur faire aucun tort. Ils voulaient simplement faire une campagne, c'est tout. Et ils n'allaient leur faire aucun tort. Ils ont dit, si le bétail broute de la verdure, nous payerons pour cela. S'il boit de l'eau, nous payerons pour cela. Mais Moab a fait venir un évêque et lui a dit, « Maintenant, viens ici un instant. Il faut que tu ailles là-bas et que tu les maudisses. » On l'a donc emmené au sommet de la colline et on lui a montré le pire visage d'Israël. Et regardez, Balaam a dit, « Bâtissez-moi cet autel. » Exactement comme il en était en Israël. Fondamentalement, il avait raison. Mettez là-dessus sept sacrifices purs, exactement comme il en était en Israël, tout juste au bas de la colline. Mettez un bélier sur chacun d'eux. Qu'est-ce que cela représentait? Cela indiquait la venue de Jésus. Tous les deux indiquaient la même personne. Fondamentalement, l'un avait tout autant raison que l'autre, fondamentalement parlant. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il n'a pas entendu le cri du roi qui se faisait entendre là-bas, dans le camp. Ils avaient un rocher frappé, ils avaient une colonne de feu, un signe surnaturel. Et ils n'ont pas vu tout ça. Voilà ce qui ne va pas avec le monde aujourd'hui. Ils ne voient pas cela. Oh non, a peut-être dit Balaam. Bien sûr, ils ont fait toutes sortes de mauvaises choses. Mais ils n'ont pas vu ce rocher frappé qui les précédait, qui faisait continuellement l'expiation pour eux. C'est la même chose aujourd'hui. Ils disent, les pentecôtistes, ces gens qui poussent des cris et qui se conduisent n'importe comment, c'est ce même genre de personnes qu'il y avait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, au jour de la Pentecôte. Ils avaient le même genre de choses. Ces gens parlent en langue. Ils prient pour les malades. Ils ont des guérisseurs divins. Et je connais les choses viles qu'ils ont faites. Et oui, ceux de l'autre groupe en ont fait beaucoup aussi. Mais c'est juste qu'on n'en entend pas du tout parler. Mais il n'a pas vu ce rocher frappé et ces signes surnaturels. Et il ne pouvait pas les maudire. Chaque fois qu'il essayait de les maudire, Dieu les a bénis. Vous ne pourrez jamais l'étouffer. C'est le message de Dieu. Ça continuera de brûler jusqu'à ce que Jésus vienne. Ça le fera certainement. Alors, elle a abreuvé le chameau, l'animal, la puissance qui devait l'emmener chez elle, vers sa nouvelle demeure. Et autre chose, l'avez-vous remarqué? Quand elle est allée là-bas, comme elle était parente par le sang, ce n'est que par la foi qu'elle avait cru cela. Tout ce qu'elle avait, c'était le message d'un serviteur. C'est peut-être tout ce que vous avez, mon message. Je veux être un fidèle serviteur de la parole. Les bénédictions sont pour vous. Elles vous appartiennent. Je sais que ce n'est pas populaire, mais la popularité, ça m'est égal. Je veux être honnête envers mon maître, comme l'a été Eliezer. Je veux que vous preniez une décision claire et nette, comme Eliezer. Venez me dire si vous le croyez ou pas. Voyez, je veux une décision claire et nette. C'est ce qu'un fidèle serviteur exige. Si vous la prenez, alors agissez en conséquence. Voyez, allez-y, passez à l'action. Venez et allez-y. Et quand ils sont arrivés près du lieu où elle allait rencontrer son amoureux, elle ne l'avait jamais vu. Mais écoutez, la Bible dit qu'Isaac s'était éloigné de la tente et qu'il était dans les champs. Savez-vous que l'Église ne rencontrera pas Jésus au ciel? Elle le rencontrera dans les airs. Il s'est déjà éloigné de la maison du Père en ce moment, je crois. Il est sorti pour méditer. Tout à coup, il a levé les yeux. Il a vu ce chameau qui amenait son épouse. Et remarquez, c'était de nouveau vers le soir. Le soir, au coucher du soleil, ce message a voyagé de l'est jusqu'à l'ouest. Et nous sommes sur la côte ouest en ce moment. Il ne peut pas aller plus loin. Il va de nouveau retourner à l'est. C'est le temps du soir. C'est le temps du soir de la civilisation. Sans cesse, ils ont été mordus. Ils ont mordu. ils se sont conduits n'importe comment et ils ont pris une bouchée de l'arbre de la connaissance et ont fait une bombe atomique. Que vont-ils en faire ? Se détruire eux-mêmes. La civilisation est à la fin. L'Église est remplie de credos. Elle est devenue une dénomination. Elle est tordue. Elle est détournée. Elle a toutes sortes d'ismes et tout, au point qu'elle est à la fin. La vie humaine est à la fin. Voyons, les gens n'ont plus de respect les uns pour les autres. Et la maternité est à la fin. Tout semble être à la fin. Qu'est-ce que c'est? C'est le temps du soir. C'est à ce moment-là que l'Église rentre à la maison. Et Isaac, il est en route. Et dès que Rebecca l'a vu, elle lui a lancé un beau regard pétillant. Elle s'est voilée le visage, a sauté du chameau et a couru à sa rencontre. Ça a été le coup de foudre. Il l'a vue et il l'a aimée. Il l'a emmenée dans la tente de son père et au souper des noces. Oh, nous sommes au temps du soir. Avez-vous déjà pris votre décision? Avez-vous tout abandonné à Jésus-Christ? Est-il votre roi, votre sauveur, votre guérisseur? Il est celui-là, votre amoureux, celui que vous attendez. Êtes-vous arrivé à vraiment prendre votre décision? Si vous avez bien pris votre résolution à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas pris votre décision, faites-le maintenant même. Prenez votre décision. Prions.
Oh Lord, it's truly evening time.
Oh Seigneur, c'est vraiment le temps du soir. Mais tu as promis que vers le soir, les lumières du soir brilleraient.
It'll be the same light that showed in the morning.
Ce sera la même lumière que celle du matin, car c'est le même soleil, mécaniquement parlant.
And it's the same Son of God.
Et c'est le même Fils de Dieu, spirituellement parlant, qui a fait paraître sa grande lumière sur l'Église, qu'il a établie le jour de la Pentecôte. Ce même Fils de Dieu, sa lumière est en train de briller sur les Occidentaux au temps du soir, avec un autre groupe de croyants pentecôtistes. Oh Dieu, nous savons qu'ils se sont embrouillés et se font appeler baptistes, presbytériens, luthériens, et ainsi de suite. Mais ils ont eu l'expérience de la Pentecôte. Ce sont tes enfants. C'est l'épouse que tu viens chercher. Et c'est presque le temps pour elle de partir. Oh Dieu, accorde ce soir que parmi ceux qui écoutent ceci à la radio, ou ici, dans cet auditoire visible, s'il y en a ici, ou là-bas, qui n'ont pas encore pris de décision, puisse ce moment être leur heure de décision, où ils se débarrasseront de tout ce qui est du monde, de toutes leurs convoitises, de leurs modes et de leur orgueil, et qu'ils se débarrasseront complètement de tout et diront, « Maintenant, Saint-Esprit, prends-moi, utilise-moi et mets ta foi dans mon cœur. » Fais que je te suive, non pas pour aller vers les choses que je vois, mais vers les choses auxquelles tu me conduiras. Car je crois vraiment, Seigneur, qu'il les conduira à Jésus, que nous devrions voir bientôt lorsqu'il viendra. S'ils se sont tout embrouillés et que leur esprit est très confus, puissent-ils regarder en arrière et accepter le fiable. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Comment pouvons-nous mettre davantage de confiance en quoi que ce soit d'autre que les paroles du Fils éternel de Dieu? Aujourd'hui, les hommes essayent de tordre le sens de cela en disant, ça, c'était seulement pour certaines personnes. Oh Dieu, je ne voudrais rien déposer là-dedans. Fais que je fasse mon choix sur ce qu'il dit. Ainsi dit le Seigneur. Croire cela. Comme le dit cette écriture bénie, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et Seigneur, si le premier sarment qui est sorti de ce cep était un sarment pentecôtiste, rempli du Saint-Esprit, que les signes, les prodiges et les fruits de l'Esprit étaient suspendus à ce cep, sur le sarment, si le deuxième sarment en sort, il sera forcément un sarment pentecôtiste s'il sort du même cep. Ô Seigneur, puissent les hommes et les femmes prendre conscience de cela et revenir à une véritable expérience de la Pentecôte qui consiste à naître du Saint-Esprit et à croire aux œuvres surnaturelles que Dieu a promis de faire au milieu de nous par son Esprit. Si de telles personnes nous écoutent à la radio et qu'elles n'ont pas reçu cette expérience, voudriez-vous, au nom de Jésus, courber la tête, vous qui écoutez ceci à la radio, et recevoir Jésus à l'instant? Quand il viendra dans la plénitude de sa puissance, il viendra exactement comme il est venu le jour de la Pentecôte. Il n'y aura aucune différence. Un enthousiasme qui brûlera votre cœur, qui vous rendra tellement heureux et plein de joie, que vous tituberez comme si vous étiez plein de boissons fortes. Car l'Écriture dit, « Ne vous enivrez pas de boissons fortes qui mordent comme un basilic et qui piquent comme un serpent, mais soyez ivres de l'Esprit. » Mes amis qui écoutent ceci à la radio, si vous n'avez pas reçu cela, écoutez-moi ce soir. En tant que votre frère, je vous aime. S'il vous plaît, trouvez-vous un petit endroit secret. Tout de suite, beaucoup d'entre vous, les braves membres d'église qui appartiennent à différentes églises, je ne parle pas contre votre église, mon cher ami. Je ne suis contre aucune dénomination. Non, protestants, catholiques, juifs, ou que sais-je encore, témoins de Jéhovah ou de la science chrétienne, quoi que vous soyez, cela n'a pas d'importance pour moi. Je ne pense pas que ça ait de l'importance pour Dieu. En fait, si vous êtes né de nouveau, si vous avez reçu le Saint-Esprit, alors vous êtes des enfants de Dieu. Recevez cela ce soir. Ne voulez-vous pas? Nous allons prier dans un instant pour vous, là-bas, et pour les malades aussi. Mais nous parlons d'abord de l'âme. Maintenant, je me tourne vers cet auditoire, ici. Des centaines de personnes sont assises dans l'Angelus Temple ce soir. Quand je promène le regard par ici, je vois que la plupart d'entre vous, vous avez les cheveux d'un gris givré. Maintenant, vous retournez. Mais peu importe, il y a des jeunes ici, beaucoup de jeunes. Il n'y a rien qui vous garantit que vous serez vivant demain matin. C'est peut-être la dernière fois que vous avez l'occasion de prendre votre décision. Prenez-la maintenant. Ne le voulez-vous pas? Et tous ceux qui sont ici, qui n'ont jamais reçu cette glorieuse bénédiction du Saint-Esprit et qui désirent que je prie pour qu'ils la reçoivent, voudriez-vous lever la main partout dans l'Angelus Temple? Vous qui n'avez pas reçu le Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse partout là-bas, partout, là-haut, au balcon, que Dieu vous bénisse là-haut. J'ai confiance que ce soir sera le soir où vous le recevrez. Vous me direz peut-être, frère Branham, est-ce que ça signifie quelque chose que je lève la main? Certainement, vous êtes en train de prendre une décision. Vous avez fait le premier pas vers cela. Et vous qui écoutez ceci à la radio, peu m'importe où vous êtes, déplacez-vous sur le côté, sortez de votre voiture, arrêtez-vous sur le bord de la route, agenouillez-vous, courbez la tête au-dessus du volant, d'une manière ou d'une autre. Maman, arrêtez de faire la vaisselle. Ou, et si tout le groupe est à l'écoute et que vous êtes en train de parler et de faire des sandwichs, déposez tout. Que quelqu'un dans la pièce s'agenouille et se mette à prier. Qu'il conduise les autres. Ils vont vous suivre. Papa, si vous vous tenez là, à moitié ivre ce soir, et que votre pauvre petite femme est assise dans le coin à pleurer avec les enfants, n'avez-vous pas honte de vous? Papa, savez-vous qu'il se peut que vous ne soyez plus de ce monde demain matin? Je vous plains. Mon père buvait. Je sais être compatissant envers une famille qui doit subir cela. Bon, il se peut que ce soit la mère qui boit. Peu importe ce que c'est. Mettez ça de côté maintenant. Ne le voulez-vous pas? Et venez à Christ maintenant même. Vous dites, « Oh, frère Branham, j'ai essayé ça bien des fois. » Mais attendez, vous n'êtes jamais arrivé à vraiment prendre votre décision. Il se peut que vous ayez été sous le coup d'une sorte d'émotion. Mais si vous vous décidez vraiment et que vous prenez une décision, Christ vous recevra. Et vous qui êtes là-bas, dans les hôpitaux, dans les lits de maladie, et qui ne pouvez pas être ici ce soir pour la ligne de prière, le discernement et les choses que le Seigneur va faire, j'aurais voulu que vous soyez ici, parce que je crois que Dieu va faire quelque chose de glorieux. Et je veux que vous vous souveniez, vous qui écoutez ceci à la radio, demain après-midi à 14h30, ce sera l'histoire de ma vie. S'il vous plaît, essayez d'être ici. Emmenez des pêcheurs, tout le monde, emmenez un pêcheur avec vous demain à ce service spécial. Et demain soir, ce sera la fin du service de guérison. En général, plus de gens sont guéris à ce moment-là parce qu'ils sont dans l'expectative. Maintenant, tous ceux qui sont ici dans le bâtiment et ceux qui écoutent ceci à la radio, alors qu'il ne nous reste que quelques minutes de temps d'antenne, voulez-vous prendre votre décision maintenant, dans votre cœur, qu'à partir de ce soir, de cette heure même, de ce moment, vous allez vous débarrasser de toute incrédulité. Vous allez vous débarrasser de toutes les choses du monde. Mettre ça de côté. L'Écriture dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Hébreux chapitre 11, les combattants de la foi de la Bible, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin de pouvoir courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur le chef et le consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus, sa bonté, sa miséricorde, sa tendresse. Et après 2000 ans, il est encore vivant ici ce soir, et il montre qu'il est vivant. Maintenant, prions tous. Et vous qui êtes ici dans le temple ce soir, courbez la tête pendant que nous prions. Si notre sœur le veut bien, qui vient à l'orgue, juste pour cette occasion spéciale, je veux que vous jouiez, si vous le voulez bien, je viens, Seigneur, si vous le voulez bien. Maintenant, prenez votre décision, préparez-vous maintenant pour la prière. Je vais prier avec vous, et nous allons tous prier ensemble. Et je suis sûr que le Seigneur va nous exaucer. Avant que la ligne de prière commence, ce serait peut-être un bon moment pour vous qui êtes assis dans ces fauteuils, de commencer maintenant à prendre la décision d'accepter votre guérison tout de suite, alors que nous courbons la tête. Seigneur, que ce cantique qui est en train d'être joué en ce moment, je viens, Seigneur, je viens maintenant à toi. Lave-moi. Purifie-moi, accorde-le, Seigneur. Là-bas, où on écoute ceci à la radio, Seigneur, puis ceux qui ont obéi à la voix du serviteur de ce message, d'un roi riche qui détient la vie éternelle, le plus grand trésor qui puisse être donné, ce qui signifie que s'ils acceptaient le message, ils ne périraient jamais. Mais ils auraient la vie éternelle pour toujours. Car notre Seigneur a dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, Seigneur, peut-être que beaucoup de gens qui ont été trompés dans leur foi, nous sommes conscients que tu as reconnu la valeur d'Abraham, qu'il a été justifié par la foi pour avoir cru en toi. Et c'est tout ce que cet homme pouvait faire, croire. Mais tu as confirmé sa foi en lui donnant le sceau de la circoncision. Et ce soir, Père, puisse beaucoup de gens qui prétendent avoir cru en toi dans le pays, mais tu as dit que s'ils croient, ils seraient, recevraient le Saint-Esprit, le sceau de la circoncision du cœur. Dieu est venu avec sa parole et a circoncis le cœur. Et il s'est fait une demeure à partir de laquelle il peut avoir le contrôle sur eux, leur foi, les amenant ainsi à croire au sujet de leurs maladies et de leurs affections. Fais, Seigneur, que tous ceux qui sont à l'écoute ce soir, qui ont adopté cette attitude dans leur cœur, de se décider pour toi, puissent-ils recevoir Christ maintenant même dans leur cœur, et puissent-ils venir à l'Angelus Temple pour nous en parler, pour dire qu'ils ont reçu Christ comme leur sauveur personnel, et ensuite être baptisés pour entrer dans la communion d'une bonne église. Accorde-le, Seigneur. Quant aux malades et aux affligés qui sont à l'écoute à l'hôpital, dans les maisons ou dans les voitures, ou partout ailleurs dans le pays, où qu'ils soient, puisse le même Saint-Esprit qui a conduit Rebecca là-bas afin qu'elle reçoive le message, puisse-t-il se rendre compte que c'est le même Saint-Esprit qui les a conduits à se régler sur cette station ce soir, et puisse-t-il être guéri de toutes leurs maladies et de leurs affections. Accorde-le, Père, et tous ces gens qui sont ici, de la présence divine, puisses-tu remplir leur cœur du Saint-Esprit et guérir chaque personne qui est maintenant dans la présence divine. Accorde-le, Seigneur, car nous te remettons ces choses au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Chantons ce couplet ci de ce cantique, si vous le voulez bien. Je viens, Seigneur. Voudriez-vous, Billy, voudrais-tu venir m'aider à conduire ce chant, si tu le veux bien? À ceux qui nous écoutent à la radio, ayons confiance que vous avez pris cette grande décision maintenant pour le Seigneur Jésus, que vous avez le sentiment que vous êtes guéri de votre maladie et que vos péchés sont sous le sang.
May the Lord God bless you as we sing this song. All right.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse alors que nous chantons ce cantique. Très bien.
Coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in thy blood that flow from Calvary.
Levons les mains ici, dans le temple maintenant, alors que nous chantons.
Coming now to thee, wash me, cleanse me in the blood that flow on Calvary.
Combien ici ont pris la décision qu'à partir de ce soir, vous allez tenir la main immuable de Dieu jusqu'à ce que vous receviez ce que vous avez demandé. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous partirez de ce bâtiment ce soir avec tout ce que vous aurez demandé. Cela vous sera accordé. C'est maintenant le moment de former la ligne de prière. Ce groupe de l'Angelus Temple qui était avec moi en Australie, ils ont vu ce qui s'est passé, ou à Siam, ou quelque part outre-mer. Nous voyons parmi nous ce soir frère Julius Statsklev, le capitaine Statsklev de Barstow, qui est l'aumônier de l'armée des États-Unis. Frère Statsklev était avec moi en Afrique, et il était là, à Durban, ce jour-là, lorsque 30 000 païens ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel en même temps. Où êtes-vous, aumônier? Êtes-vous ici? Le voici, debout. Voudriez-vous vous lever un instant? Eh bien, frère Statsklev, on a été témoin là-bas. Il a écrit le livre « Un prophète visite l'Afrique ». Vous rendez-vous compte que c'était 10 fois plus grand qu'à la Pentecôte? Ils étaient 10 fois plus nombreux qu'à la Pentecôte. 30 000 purs indigènes ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Ils ont brisé les petites idoles qu'ils portaient en les jetant sur le sol. Le docteur Baxter m'a dit, frère Branham, je crois que ce qu'il voulait indiquer, c'est la guérison physique. Il ne voulait pas indiquer qu'il recevait Christ. Il a dit, Vous feriez mieux de clarifier cela. J'ai dit, je ne parlais pas de votre guérison physique. Je vais prier pour vous plus tard. Je parle de ceux qui veulent recevoir Christ comme leur sauveur personnel. Si vous êtes vraiment sincère, brisez vos idoles en les jetant sur le sol. Et on aurait dit qu'une tempête de poussière s'est élevée. Voyez, c'est l'Évangile qui attire l'attention des gens. Mais bien sûr, nous, les Américains, nous sommes trop intellectuels pour croire des choses comme ça, vous savez. Alors, c'est quelque chose de démodé. Il commence là où nous nous sommes arrêtés. C'est ça. Très bien. Tous ceux de 50 à 75, prenez maintenant votre place. J, de 50 à 75. Prenez votre place là-bas, dans la ligne. C'est vous, peut-être que vous pourriez contourner et revenir. Je crois, ne pensez-vous pas qu'il vaudrait peut-être mieux ouvrir la porte et les laisser s'avancer par là, ou de venir par ici, dit frère Mike, de venir de ce côté-ci et de prendre votre place. Oh, comme je suis heureux de savoir que les gens ont encore foi en Dieu. Je ne troquerai jamais ma foi en Dieu si quelque chose me promettait que je pourrais vivre 10 000 ans ici sur terre et avoir toute la terre entre mes mains et faire tout ce que je voudrais faire. Je refuserai catégoriquement cela pour recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Il a été ma vie. Il a été mon espérance. Il est, si, à la fin du monde, quand Jésus viendra, et là, je suis très sérieux, je ne le dis pas simplement parce que je suis devant vous, en ce jour-là, si je m'avance vers lui et qu'il me dit, tu ne mérites pas d'entrer dans mon ciel, je dirai, c'est vrai, Seigneur, je ne le mérite pas. Et s'il me rejette, je l'aimerai quand même, où que je sois, je l'aime. Il m'est arrivé quelque chose, il y a environ 32 ans, Christ est venu dans mon cœur, et ça a été la chose la plus glorieuse. Maintenant, je pense que nous sommes maintenant rendus à 75. Frère Mike, de 75 à 100, prenez votre place là-bas. Ça, ce sont tous ceux qui ont des cartes de prière maintenant. Les J, prenez votre place là-bas dans la ligne. De 75 à 100. Très bien. Bientôt, la ligne sera... La ligne fait maintenant presque le tour complet du temple et se prolonge jusque dans la cour extérieure, là-bas dans les allées à l'extérieur. Cette ligne de prière qui se forme. Et vous qui écoutez ceci à la radio, j'aimerais que vous voyiez ceci, que vous voyez les gens qui viennent là avec de grandes attentes, l'expression sur leur visage. Certains d'entre eux viennent en se disant peut-être, « Eh bien, j'ai longtemps souffert, mais ce soir, c'est ma soirée. Je me décide pour Christ. Je viens maintenant en croyant qu'il est mon guérisseur, de même que j'ai cru qu'il est mon sauveur. » Bon, demain soir, comme je l'ai dit, ce sera la fin de cette série de réunions. Et j'aimerais vous voir, vous qui nous écoutez à la radio, beaucoup d'entre vous, bien sûr, cet homme qu'on avait engagé une fois pour venir m'hypnotiser, il était là dans la ligne, comme ça. On l'avait fait venir dans les camps de l'armée pour qu'il hypnotise les soldats et les fasse aboyer comme des chiens, et qu'ils se conduisent, vous savez la manière dont ils agissaient sous l'effet de l'hypnotisme. Cet homme est venu là, le diable l'avait envoyé, et il allait m'hypnotiser sur l'estrade. Vous vous souvenez que c'est arrivé à Montréal. Et quand il l'a fait, j'ai senti ce mauvais esprit, et je me suis retourné. J'ai dit, « Pourquoi le diable a-t-il mis cela dans votre cœur ?» Il m'a regardé très bizarrement et a baissé la tête. J'ai dit, « Vous essayez d'hypnotiser un serviteur du Seigneur ?» Il pensait que c'était de la télépathie. Et j'ai dit, « Parce que vous avez fait ceci, Dieu vous jugera pour cela, que cela retombe sur vous. » On l'a sorti de là paralysé. Il est encore paralysé aujourd'hui. Nous ne jouons pas à l'Église, souvenez-vous-en. Vous souvenez-vous du temps où quelqu'un était allé essayer de chasser un mauvais esprit, du temps de Paul? Vous savez ce qui lui est arrivé? C'était un cas d'épilepsie, et c'est venu sur eux, certainement. Alors maintenant, vous qui êtes dans la ligne de prière, souvenez-vous, je n'exerce pas le discernement dans la ligne de prière, je vais simplement prier pour vous. Toute la semaine, on a opéré le discernement ici, au cours des réunions, sur des gens qui étaient simplement venus se rassembler. Mais ce soir, je vais seulement prier, à moins que le Seigneur m'arrête pour dire quelque chose à quelqu'un. Mais maintenant, combien dans le bâtiment ce soir n'ont jamais assisté à nos réunions auparavant Levez la main. C'est une bonne chose que tout le monde ne vienne pas à l'Angelus Temple le même soir. Ils seraient entassés dans le parc. Il y a presque une nouvelle foule chaque soir. Afin que vous le sachiez, Jésus-Christ n'a pas prétendu être un guérisseur. Il a dit, « Je ne fais rien tant que le Père ne me le montre pas. » Mais il pouvait, il connaissait les gens, il leur disait qui ils étaient, quel était leur nom. Combien d'entre vous, les nouveaux venus, croient cela? Il a dit à Philippe, ou Nathanaël, ou Philippe l'avait trouvé, alors qu'il était en train de prier sous un arbre. Il lui a dit qui il était. Il a dit à Pierre, quel était son nom. Et c'est ainsi qu'ils ont cru qu'il était le Messie. C'était le signe du Messie. Et quand il est allé chez les Samaritains, voyez, il n'était jamais allé chez les gens des nations, et il n'avait pas non plus donné à ses disciples le mandat de le faire. Il leur avait dit, n'allez pas chez les gens des nations, allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Mais les Samaritains attendaient la venue du Messie. Combien savent que c'est vrai? Dites Amen. Eh bien, alors, si c'est ce qu'ils attendaient, il fallait bien qu'il se fasse connaître. Il est passé par la Samarie et y a trouvé une femme. Elle vivait dans l'adultère. Et il lui a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Elle a dit, « Je n'ai pas de mari. » Il a dit, « C'est vrai, tu en as eu cinq et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. » Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Maintenant, écoutez la voix de cette femme. Nous savons, elle a dit, je vois que tu es prophète, mais nous savons que quand le Messie sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Eh bien, combien savent que c'est l'Écriture? Jean 4, dites Amen. C'était le signe du Messie. Elle ne comprenait pas qui il était. Elle a dit qu'il devait être un prophète. Mais combien savent que le Messie devait être le prophète Dieu? Dites Amen. Certainement, si jamais vous avez lu la Bible, Moïse a dit, « L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi. Il arrivera que quiconque n'écoutera pas. » C'est pour ça qu'ils attendaient cela. C'est pour ça que les vrais Juifs ont cru en lui, quand il a produit le signe du prophète. Les Juifs incroyants, les « Oh, le type classique » ont dit, « Cet homme est un diseur de bonne aventure. » C'est Belzébul. Et tout le monde sait que la divination est du diable. C'est vrai. C'est un esprit perverti. Ils ont dit, c'est un Belzébul. Et Jésus a dit que ce serait un blasphème contre le Saint-Esprit, que prononcer un seul mot contre le Saint-Esprit serait un blasphème, et que cela ne serait jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Maintenant, combien d'entre vous, dans cette ligne de prière, me sont inconnus, de même que dans l'auditoire? Levez la main si vous savez que je ne sais rien à votre sujet, que vous m'êtes inconnu. Voici cette première femme. D'un bout à l'autre de la ligne, ce sont des inconnus. Eh bien, alors, si le Seigneur... Venez ici un instant, madame. Tenez-vous juste là, près de ce micro, juste là. Maintenant, je veux que vous me regardiez pendant un instant. Est-ce la première fois que nous nous rencontrons? Si c'est le cas, levez simplement la main pour que l'auditoire visible puisse voir. Et vous, à la radio, des centaines et des centaines ici sont témoins que cette femme, une jeune femme qui a la main levée, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Voici la Bible de Dieu. Je ne vous connais pas. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Eh bien, si ce n'est pas là une image parfaite de Jean 4, un homme et une femme qui se rencontrent pour la première fois. Bon, si je ne vous connais pas et que vous ne me connaissez pas, et alors si le Saint-Esprit, il y a quelque chose pour lequel vous êtes ici, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est une maladie. Peut-être que ce n'est pas une maladie. Peut-être que c'est un problème financier. Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mais si le Seigneur me révèle ce pourquoi vous êtes ici, croirez-vous que c'est l'Esprit qu'il a été promis dans les derniers jours qu'il viendrait sur l'Église des nations juste avant la destruction, comme Jésus l'a dit, ce qui arriva au jour de Sodome, quand ce même signe a été produit, vous le croiriez? Combien dans l'auditoire visible croiraient cela? Si nous deux, qui avons les mains levées vers Dieu, nous ne nous connaissons pas. C'est juste pour que vous, qui êtes là-bas dans la ligne, vous le sachiez aussi. Maintenant, restez là où vous êtes. Je vais vous parler juste un instant, afin que l'Esprit du Seigneur nous oigne. Eh bien, elle est une femme et moi un homme. Elle est peut-être une pécheresse, peut-être pas. Elle est peut-être une critiqueuse. Je ne sais pas, mais le Seigneur le sait. Il peut me le révéler. Et à ce moment-là, ce serait à vous de décider ce que vous en pensez. Apparemment, il y a plus de foi dans l'auditoire qu'ici, dans la ligne, juste au moment où vous... L'onction. Combien ont déjà vu la photo de cet ange du Seigneur? Levez les mains, bien sûr, certainement. Cela a été examiné. C'est accroché dans la salle des arts religieux à Washington, D.C. Et c'est protégé par un droit d'auteur. Le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié avec preuve scientifique. Cette photo de l'ange du Seigneur que vous voyez, je me tiens devant Dieu. Cet ange est à moins de 60 cm de l'endroit où je me trouve en ce moment. La même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Elle a été faite chair et habitée parmi nous. Elle a fait ce genre de signes. Il a dit, je viens de Dieu, la colonne de feu, je retourne à Dieu. Sur le chemin de Damas, Paul l'a rencontré et il a été jeté à terre. Une grande lumière qui l'a aveuglé a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus. Et le voici qui s'est laissé photographier parmi nous. Or, les appareils photo ne captent pas la psychologie, l'œil mécanique de l'appareil photo. Il y a quelque chose qui a frappé l'objectif. Prenez votre décision maintenant, si vous le croyez, s'il parle à cette jeune femme. Oui, voilà ça. La vision de cette femme est en train d'apparaître. Elle est gravement malade. Franchement, elle est en attente d'une opération. Avez-vous entendu ce qu'elle a dit? Aussi ceux qui nous écoutent à la radio? C'est vrai. Maintenant, comment cela s'est-il fait? Comment l'ai-je su? Je ne saurais vous dire ce que j'ai dit là. C'était l'Esprit de Christ qui se servait de ma voix. Le Saint-Esprit l'a prononcé en l'exprimant d'une manière dont je ne sais rien. Vous dites, il se peut que vous ayez deviné cela, frère Branham. Maintenant, tous ceux qui sont dans l'auditoire visible et qui ont entendu cela et qui ont parfaitement vu cela, dites « Amen ». L'auditoire qui nous écoute à la radio l'entend. Bon, si vous pensez que j'ai simplement deviné cela, je vais parler à cette femme. Elle pleure. Pourquoi? Je regarde cette femme et tout autour d'elle, il y a cette lumière. Qu'est-ce que c'est? Pour vous, les scientifiques, qui êtes peut-être à l'écoute, c'est une autre dimension. C'est un autre monde. Maintenant, voyons ce qui s'est passé. Oui, je la vois chez le médecin. Il l'examine, oui. Il prescrit une opération. Et cette opération, c'est sur les glandes féminines. C'est exact. Et je vois autre chose. C'est à propos de votre oreille. C'est votre oreille gauche. Il y a une tumeur à l'intérieur. Et il faut qu'on opère cela. Ou c'est ce que le médecin a dit. C'est ainsi dit le Seigneur. Croyez-vous maintenant, sœur? Est-ce que vous croyez, vous qui écoutez ceci à la radio? Je sais que vous croyez. Est-ce que vous croyez ici? Alors, voyez, c'est exactement ce que Jésus a dit, qu'il arriverait juste avant la fin de l'âge des nations. Le Messie, non pas moi, je suis un homme. C'est son esprit, cette onction que vous ressentez, c'est le même esprit qui est en train de parler ici. C'est ceci n'est qu'un don. Il se peut que vous soyez comme le docteur Dufield, que voici. C'est un prédicateur. Quand il prêche, il a cette onction. Vous les ministres, vous avez cette onction. Vous qui parlez en langue, avez cette onction. Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui parle par vous, voyez, c'est le même esprit, à la différence qu'il agit sous diverses formes pour prouver que ce que l'Écriture dit est vrai. Maintenant, à quelqu'un qui écoute ceci à la radio, Paul a dit, si vous parlez tous en langue et que surviennent les hommes du peuple, les non-convertis, ils diront que vous êtes tous fous. Mais s'il en est un qui soit prophète, qu'il prophétise et révèle les choses qui sont dans le cœur, alors ils tomberont et diront, « Dieu est réellement au milieu de vous. » Eh bien, vous critiquez les pentecôtistes de ce qu'ils parlent en langue. Qu'en est-il alors de ceci? Prenez votre décision ce soir. Venez à lui et croyez. Prions maintenant pour cette femme. Et après cela, quant à vous tous qui êtes dans la ligne, si le Saint-Esprit me parle précisément de quelque chose, je vais Je vais m'arrêter sur votre cas. Sinon, combien d'entre vous, s'il ne prononce plus aucune parole, mais va simplement de l'avant, vous croirez quand même que Jésus-Christ vous a guéri par son expiation? Non pas parce que frère Branham a prié pour vous, non pas parce que nous vous imposons les mains, mais parce que c'est sa promesse. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Allez-vous croire cela? Levez la main si vous le ferez, là dans la ligne. Tout le monde dans l'auditoire, croyez maintenant. Vous avez pris votre décision, c'est réglé. Vous croyez cela? Très bien. Que le Seigneur bénisse ce grand groupe ici, dans l'auditoire visible, et l'auditoire invisible aussi, jusqu'à ce que nous ne soyons plus sur les ondes. Je pensais que nous serions sur les ondes jusqu'à 21h30, comme d'habitude, mais je vois que la lumière est encore allumée et que nous sommes sur les ondes. Alors, soyez en prière partout, pendant que nous faisons passer ces gens qui sont dans la ligne, que nous prions pour eux.
Great Holy Spirit, who has revealed this woman's conditions or her heart, whatever it might have been, I pray that you'll grant to her her desire in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Bless you.
Bless the Lord.
Go believing.
Maintenant, voici une femme qui s'avance. Je ne la connais pas. C'est une femme de couleur. Mais pour que vous sachiez que le Saint-Esprit est toujours là après avoir parlé, cette femme est sur le point de mourir. Elle mourra si Dieu ne lui vient pas en aide, parce qu'elle est recouverte de l'ombre noire du cancer. La mort est en train de frapper cette femme. Vous croyez que Dieu vous guérira de cela, madame? Venez ici. Oh Seigneur, je prie pour cette femme. Toi seul peux la guérir. Et ensemble, avec cette glorieuse église du Dieu vivant qui est en prière, d'un bout à l'autre du pays, fais que notre sœur vive. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ne doutez pas, croyez. Il se trouve que la prochaine femme qui s'avance est recouverte de l'ombre, de la même manière. Vous avez le cancer. Si vous croyez maintenant que Dieu va vous guérir, venez maintenant. Et ne doutez pas du tout, mais croyez que vous allez être guéri. Seigneur, je te prie de lui accorder ceci et qu'elle soit guérie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Maintenant, ne doutez pas et ça va. Votre cœur va guérir et tout ira bien pour vous. Et si vous croyez, vous qui vous avancez, l'arthrite vous quittera et vous repartirez guéri. Croyez-vous cela? Au nom du Seigneur Jésus, accorde à cette femme sa guérison. Amen.
Now come, sister. You believe that God can make you well? Come and let us pray. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Amen.
Très bien. Si je ne vous dis rien du tout, vous savez que je sais ce qui ne va pas chez vous. Vous en êtes consciente. Mais si je ne vous dis pas un mot, croyez-vous que votre dos va... Vous croyez que vous vous rétablirez quand même? Très bien. Allez-y. Je l'ai dit quand même. Voyez. Que Dieu vous bénisse et soyez guéris. Amen. Croyez-vous que vous pouvez aller manger maintenant, que votre estomac se portera bien et que vous serez rétabli? Très bien. Allez vous offrir un hamburger. Mangez-le et savourez-le. Au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, vous qui êtes ici, dans l'auditoire, priez pour moi. Ces visions sont... Je n'arrive pas à m'en empêcher. Pour y arriver, je vais devoir arrêter la ligne dans un instant, vous voyez. En fait, il y a des visions qui apparaissent constamment. Alors, continuez à prier pour que Dieu m'accorde de me tenir ici. Les visions, ça affaiblit. Combien comprennent ça? Dites Amen. Vous souvenez-vous de la petite femme qui avait touché son vêtement? Une femme a touché son vêtement. Il s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» Il a promené le regard jusqu'à ce qu'il ait trouvé cette femme. Et il lui a dit que sa perte de sang avait... que sa foi l'avait guérie. Eh bien, si une seule vision a affaibli le Fils de Dieu, quel effet cela aurait-il sur moi, qui suis un pécheur sauvé par grâce? Il n'y a qu'une seule chose qui puisse faire en sorte que je me tienne ici. C'est qu'il a promis, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage. Je sais que la version du roi Jacques dit « de plus grande », mais vous ne pourriez pas en faire de plus grande, mais simplement davantage. Voyez, parce qu'il a ressuscité les morts, il a arrêté la nature, il a tout fait. Vous en ferez davantage, car je m'en vais à mon Père. Très bien, venez, sœur. Voilà que ça apparaît encore. Ça a apparu dès qu'elle a bougé. Maintenant, écoutez. Si vous pensez, écoutez, vous croyez que Dieu peut guérir cette tumeur et vous rétablir? Très bien. Allez, continuez à croire. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, puisse-t-elle être guérie? Voilà que c'est là de nouveau. Voyez, pouvez-vous voir cette lumière? Regardez. Regardez ici, est-ce que vous voyez ici, entre cette femme et moi? Bon, cette femme, je la vois s'éloigner d'une table, vous voyez? C'est un problème d'estomac, vous voyez? C'est ça qui me le fait savoir. C'est exact, n'est-ce pas, madame? C'est vrai, allez manger maintenant. Cela vous a quitté. Les ombres vous ont quitté. Ayez simplement la foi.
Lord Jesus, I pray for the woman that you will heal her in the name of Jesus Christ. Bring it, Lord. Come, sister. In the name of the Lord Jesus Christ, we lay hands upon her with this great ransom church of God by the thousands of praying. She must be healed. Amen.
Venez, maintenant, priez. Cette femme que voici, voyez, c'est juste là de nouveau. Voyez, voyez, vous croyez que ce problème cardiaque va vous quitter? Et que vous allez être rétabli? Seigneur, au nom de Jésus, guéris-la, rétablis-la. Vous voyez ce que c'est? En réalité, ce n'est pas ce que c'est, voyez, c'est simplement de la nervosité qui provoque des palpitations, surtout après que vous avez mangé. Ça devient pire que jamais. C'est le nom que vous donnez à ça, problème cardiaque. Mais en réalité, c'est de la nervosité. Allez, continuez à croire maintenant. Et cette palpitation, ne vous fera pas de mal. Très bien.
Lord Jesus, I pray that you will heal the man in the name of Jesus Christ. Amen.
Venez, monsieur. Venez, frère. Croyez-vous maintenant? Alors, allez manger votre souper maintenant. Tout est réglé maintenant. Votre problème d'estomac a disparu. Croyez maintenant. Oh, chinoise? Japonaise. Très bien. Vos ancêtres adoraient peut-être Bouddha, mais est-ce que vous êtes une chrétienne? Vous croyez en Christ, c'est vrai. Parce que j'ai senti votre esprit, voyez. Je sens que vous êtes la bienvenue. Là, vous êtes recouverte de l'ombre de la mort. Vous en êtes consciente, mais à cause de ce cancer. Mais croyez-vous que Jésus va vous guérir et qu'ensuite, vous apporterez le message à votre peuple au Japon? J'ai l'intention de visiter votre pays très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Venez. Que je prie pour vous. Ô Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, bénis cette femme et guéris-la au nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur.
Oh Lord, I pray for our sister that you'll heal her and make her well in the name of Jesus Christ. Amen. Come, my brother. Oh Father God, in the name of Jesus Christ, may our brother be healed. Amen. All right, come, my brother. In the name of the Lord Jesus Christ, may our brother be healed. Amen.
Vous voyez, il y a quelque chose à ce sujet. Si on ne dit pas quelque chose aux gens, ils ne semblent pas réagir à cela. Ne regardez pas à cela, chacun de vous. Ce n'est pas ça qui vous guérit. Croyez simplement que vous êtes guéri. Maintenant, regardez ici, cette femme. Eh bien, est-ce que c'est la personne suivante? Très bien. Nous sommes des incas. Les gens peuvent voir que vous avez un goitre, là, sur la gorge. Eh bien, ça, ils peuvent le voir. À part ça, vous avez l'air en bonne santé. Maintenant, je vais voir si le Seigneur va me révéler ce qui ne va pas. Oui, un problème gynécologique. C'est pour ça que vous êtes ici, pour qu'on prie pour vous. C'est un problème gynécologique. C'est exact. Maintenant, allez, croyez et soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ. Voyez? Ah oui, voyez, c'est... Vous pouvez le faire, mais ça m'affaiblit. Soyez en prière maintenant, toute l'Église, partout.
Lord, in the name of Jesus Christ, heal our sister. Father God, in the name of Jesus Christ, heal our brother. Amen. In the name of Jesus Christ, Father, I lay my hands upon brother. You said these signs shall follow them that believe. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, may our sister be healed. Father, it is written, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. This I do in the name of Jesus Christ. Amen.
Eh bien, n'ayez pas peur, voyez, vous avez peur d'avoir une crise cardiaque, voyez, mais ne vous inquiétez pas à ce sujet, vous n'en aurez pas. Que Dieu vous bénisse. Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, guéris notre sœur. Amen. La raison pour laquelle j'ai dit cela, et là, je m'adresse à l'auditoire visible et invisible, c'est que cette femme avait peur de mourir, voyez, elle était... Très bien, venez. Vous êtes un homme qui a l'air d'être en bonne santé, mais vous avez besoin d'une opération. C'est une tumeur. Vous croyez que Dieu va vous guérir? Très bien. Alors, allez et soyez guéri au nom de Jésus-Christ.
Lord, in the name of Jesus Christ, heal this our brother. Amen. You believe God will heal you, my little brother? Oh God, in the name of Jesus Christ, grant the healing, my brother. Amen. Lord, in the name of Jesus Christ, heal this my brother. Amen. Father God, in the name of Jesus Christ, heal my brother. Amen.
On dirait vraiment qu'il leur faut. Qu'en pensez-vous si demain soir, nous ne faisions passer que quelques personnes de la ligne pour faire uniquement le discernement? Est-ce que vous préféreriez qu'on fasse ainsi? Vous voyez, ou là, préféreriez-vous ce genre de ligne ici, où tout le monde passe? Levez la main pour indiquer ce que vous préférez. Que tout le monde passe? Très bien, c'est très bien. Alors, agissez maintenant, arrivez là où vous croyez. Voyez, le Seigneur est ici. C'est le Seigneur qui fait ces choses. Dieu peut l'accorder. Vous avez parcouru un long trajet pour ceci, n'est-ce pas, sœur? Vous croyez qu'il vous rétablira? Eh bien, n'importe qui peut voir que vous avez une excroissance là, dans vos yeux. C'est vrai. Mais je vois que vous venez de loin. Vous n'êtes pas de cette ville-ci. Non. Vous croyez que Dieu peut me dire d'où vous venez? Vous venez de très loin. C'est environ 2400 kilomètres vers le Montana. C'est vers là que vous êtes bienvenu du Montana. C'est vrai, c'est un cancer. Vous avez subi une opération. Ça n'a servi à rien. Et vous avez conduit êtes venu jusqu'ici pour que je prie pour vous. C'est ainsi dit le Seigneur. Si c'est exact, levez la main. Nous sommes de parfaits inconnus l'un pour l'autre. C'est vrai. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Certainement que Dieu exaucera la prière pour vous. Venez ici maintenant, je vais prier pour vous. Maintenant, si l'auditoire qui nous écoute à la radio est à l'écoute, cette femme, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle s'est avancée ici et je me suis arrêté un instant sur son cas parce qu'on dirait qu'elle a quelque chose entre les yeux. Et le Saint-Esprit a tout simplement révélé ces choses. Et je ne connais pas cette dame. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'est la première fois que nous nous rencontrons. N'est-ce pas vrai, madame? C'est vrai. Dites-le, afin que l'auditoire, à la radio, voyez, nous sommes sur les ondes. C'est vrai. Vous aimez le Seigneur? Maintenant, nous allons demander à Dieu d'enlever ceci. Père Céleste, maudit soit cet ennemi. Satan, tu t'es caché du médecin, mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Sors de là. Au nom de Jésus-Christ, quitte cette femme. Amen. Maintenant, repartez en vous réjouissant. Soyez en bonne santé. Écrivez-moi votre témoignage et donnez-le-moi. Très bien, très bien. Les tout-petits, avancez. Avancez ici. Seigneur, sur les petits, il est écrit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. » Maintenant, si tu étais ici, tu leur imposerais les mains. Ils seraient guéris. Ce soir, ton précieux corps est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant dans le ciel. Et tu as envoyé le Saint-Esprit pour poursuivre l'œuvre. Je leur impose les mains au nom de Jésus-Christ. Amen.
God bless you now. Go believing. All right, come, sir. In the name of Jesus Christ, I pray for my brother. Amen. Come, my brother. Father God, in the name of Jesus Christ, I pray for him for his healing. Amen. Bless you, sir. Father God, in the name of Jesus Christ, I pray for his healing. Amen. Oh, Lord, heal this man as he passes by. May he not pass by me, but under the cross of Christ, may he be healed. Amen. Come, my sister. Father, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed as she passes under the cross. Amen. Lord, as this woman come, may her decision be that she has made up her mind now. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Amen.
Voyez, eh bien, les gens, si rien ne leur est dit, ils... Comment vais-je utiliser mon ministère? Voyez, la manière dont le Seigneur m'a dit de procéder, c'était de prendre une personne, de lui parler, et ainsi de suite, et que tous les autres croient, vous voyez, et de juste faire une prière pour toute l'assemblée. Mais voyez-vous ce qui se passe? Maintenant, tenez, juste pour que vous sachiez que le Saint-Esprit, cette femme et moi, vous êtes la personne suivante dans la ligne ici? Nous sommes des inconnus, l'un pour l'autre. Jésus-Christ nous connaît tous les deux. Croyez-vous cela? Si Dieu me révèle quel est votre problème, vous avez l'air d'une femme en bonne santé. Mais si vous, pour que l'auditoire le voie, nous ne nous sommes jamais rencontrés, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Pas vrai? Si c'est le cas, levez la main pour que les gens voient. Très bien. Et là, je n'ai pas la moindre idée de ce pourquoi vous êtes là. Mais si le Saint-Esprit me révèle ce pourquoi vous êtes là, accepterez-vous que ça vient de Christ? Une des choses, ce sont vos yeux. Puis, vous avez une excroissance sur la tête. C'est exact. Là, dans vos cheveux. Ce n'est pas visible, mais c'est sous vos cheveux. Oui, c'est exact. C'est vrai. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous êtes de Long Beach. Oui. Vous croyez que Dieu peut me dire qui vous êtes? Madame Wiggs. C'est tout à fait vrai. Très bien. Maintenant, rentrez chez vous et croyez. Alors, le même Dieu qui savait qui était Pierre sait qui vous êtes. Très bien. Prions. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, guéris notre sœur. Croyez-vous de tout votre cœur? Alors, soyez en prière pour ces gens maintenant.
Come, sister dear. Come believing that you're going to be healed. Father God, as she passes under the cross, may the God of heaven heal her body. Amen. Come, sister. God, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed. God, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Amen. God, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Amen. Now come believing, rejoicing, see? In the name of Jesus Christ, may our brother be healed. Come, brother. In the name of Jesus Christ, may our brother be healed. God bless you. That's the way to be healed. That's the way to be healed. Father, in the name of the Lord Jesus, may our sister be healed. Amen. Father God, I lay hands on my brother. In the name of Jesus Christ, may he be healed. Amen. God, I pray for our sister that you'll heal her. In the name of Jesus Christ. Amen.
Oh Dieu, vois ce pauvre homme atteint de la tremblotte qui s'avance. Puisse-il être guéri alors que nous le bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
God bless our sister as she comes for her healing. In the name of Jesus Christ, amen. I remember, I'm not a healer. I just pray for the sick. God answers prayer. Lord, in the name of Jesus Christ, make our sister well. Amen.
Si vous pouvez croire, cette nervosité vous quittera. Vous le croyez? Très bien. Repartez en vous réjouissant. Amen.
Lord, answer prayer as I pray for our sister in the name of Jesus Christ. Amen. Come, sister. Father God, in the name of Jesus Christ, may she be healed. Amen. Come, sister. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Father God, in the name of Jesus, thy son, I ask for healing for my sister. Amen. Father God, in the name of Jesus Christ, I ask for the healing of my sister. Father God, I ask in the name of Jesus Christ for her healings.
Venez, sœur. Vous croyez? J'ai vu que vous étiez une croyante quand vous vous êtes avancée ici. Vous avez eu vos hauts et vos bas dans la vie. Vous voulez une marche plus glorieuse, une marche plus rapprochée. Mais vous vous préparez maintenant à subir cette opération. Vous croyez que Dieu va vous guérir, qu'il va ôter cette tumeur, l'ôter de l'utérus et vous rétablir? Vous croyez cela? Alors, allez et recevez cela au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Oh Lord, I pray for our sister. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Lord, I pray for our sister. In the name of Jesus Christ, may she be healed. Come, my brother. In the name of Jesus Christ, I pray, God, that you'll heal her. Amen. Come, sister. Lord, I lay hands on our sister in the name of Jesus Christ. Amen. Right? You believe with all your heart now? In the name of Jesus Christ, may they leave you. Amen.
Thank you.
God bless this little lady and the one that has brought her. In the name of Jesus Christ. Amen. God bless you, sister. The Lord bless and heal our sister in the name of the Lord Jesus. Amen. The Lord bless and heal our sister in the name of the Lord Jesus. Amen. Come, sister. In the name of the Lord Jesus, God bless and heal our sister. Amen. My brother, are you believing?
Yeah.
In the name of Jesus Christ, go and be well. God, in the name of our Lord Jesus, heal our brother. Amen. Father God, I pray for sister in the name of Jesus Christ for her healing. Amen. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon our sister for her healing. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon our sister for her healing.
C'est la fin de la ligne de prière en ce moment pour cette partie. Maintenant, la grande guérison s'opérera dans l'auditoire. Je veux que certains d'entre vous, les frères qui sont assis là, à l'avant, êtes-vous des croyants? Vous qui êtes assis là, ici, à l'avant, dans ces rangées-ci, des ministres, et ainsi de suite, avancez-vous ici et imposez les mains à ces gens qui sont ici. Certains d'entre vous, les croyants, qui sont dans le bâtiment. C'est très bien. Merci, frère. C'est bien. Maintenant, je veux que vous voyez combien de personnes vont prier pour vous. Maintenant, combien dans l'auditoire ont besoin de guérison? Levez la main. Maintenant, tous ceux qui ont la main levée et qui sont des croyants, faites signe de la main comme ceci. Très bien. Maintenant, posez votre main sur quelqu'un qui fait signe de la main à côté de vous. Si vous le faites et que vous croyez maintenant, que vous ne doutez pas, mais que vous croyez, maintenant, courbez la tête partout et vous priez vous-même. Vous priez pour la personne qui est à côté de vous. Je vois deux ou trois femmes ici qui ont les mains en l'air. Personne n'a la main posée sur elles. Posez les mains sur quelques-unes de ces femmes qui sont ici à ma gauche. Que quelqu'un pose les mains. Ne priez pas pour vous-même, là. Priez pour la personne à côté de vous. Je veux que vous sachiez que Dieu exauce votre prière. Maintenant, dès que vous sentirez que la personne qui prie pour vous, que vous êtes guéri, je veux que vous vous leviez. Tous ceux qui ont le sentiment qu'ils sont guéris, dès que vous aurez pris votre décision et que vous croirez que vous êtes guéri, je veux que vous vous leviez. Chaque personne qui croit, quand vous êtes guéri. Maintenant, je vais prier pour tout l'auditoire. Seigneur Dieu, je ne vois pas pourquoi tout le monde ne devrait pas être guéri. Oh Seigneur, nous croyons le messager. Le messager est le Saint-Esprit. Notre décision est prise maintenant même. Nous croyons cela. Maintenant, Satan, nous venons vers toi comme pour te dire que tu n'es qu'un bluffeur. Tu n'as aucun droit légal de retenir ces gens plus longtemps. Ils sont l'héritage de Dieu. Ils sont son peuple. Sors d'eux, au nom de Jésus-Christ, que l'ange de Dieu qui est présent, la grande colonne de feu qui est suspendue ici dans ce bâtiment en ce moment et qui a prouvé devant ces gens qu'il était ici, qui a donné la preuve qu'il est ici, sors, Satan, au nom de Jésus, qui est vivant ce soir, pour te faire quitter les gens. Maintenant, tous ceux qui acceptent leur guérison, levez-vous. Tous ceux qui sont dans le bâtiment et qui acceptent maintenant leur guérison, levez-vous. Gloire au Seigneur. Voilà. C'est ça. Amen. Maintenant, chantons « Je le louerai ». Que chacun chante à pleine voix. Viens, Billy. Je le louerai.
I will praise him.
Levez les mains maintenant. Avez-vous pris votre décision? Faites signe de la main si vous avez pris votre décision. Si vous avez pris votre décision, faites signe de la main. Chantons-le encore et levons nos voix maintenant.
I will pray. can wash us.